Vous êtes à l'écoute des balados sur les ondes de CFAQ 88.3. Donc, on va écouter aujourd'hui l'épisode 3 de la série de balados S'accorder, qui est un balado documentaire s'intéressant à l'impact des accorderies. Avec moi, pour la troisième fois, on a Jean-François Vachon, qui est le réalisateur de cette série balado. Comment ça va?
Très bien, très bien.
Oui, donc dans cet épisode-là, on sort un peu de Sherbrooke. C'était-tu prévu dès le début de sortir de Sherbrooke avec ce projet-là? Parce que je sais qu'avec un de tes autres projets, tu parlais de redorer la rue Alexandre, par exemple, mm-hmm. des choses vraiment plus citadines de Sherbrooke, ouais. si on veut. Ça s'est-tu décidé avant de sortir ou c'était une décision qui faisait du sens pendant la production?
Ça a été avant. Puis c'est vrai que c'est très différent de l'autre projet où ce que je m'intéresse à quelque chose qui est quand même pas, je pense, à 1 km².
Oui, c'est pas, ça, là. C'est très, très restreint.
C'est très micro, là, mais oui, c'est ça. Oui, c'était pensé parce que dans la recherche de Paul, un peu qui a initié, Paul Morin qui a initié le projet, c'était centré plus sur étudier les accorderies de Sherbrooke, Longueuil et Shawinigan. Donc, je devais y aller. À ces trois places-là. Fait que c'est pour ça que je me déplace à Shawinigan dans cet épisode-là. Et dans l'autre, après, on va dans d'autres villes aussi.
Oui, puis c'est ça, je vais revenir un petit peu à la fin du deuxième balado parce qu'on n'en a pas parlé la dernière fois. Puis je pense que c'était une fin que les deux, on a apprécié là, de ce que tu me disais, que c'était une des moments forts de la série. C'est quand c'était avec ta conjointe que tu te prêtes au jeu, dans le fond, que tu deviens accordeur pour un après-midi. Mais dans le premier épisode, tu étais celui qui recevait un service avec ta sécheuse qui était bien correcte. Là, en fait, c'est toi qui offres un service. Est-ce que c'est arrangé avec le gars des vues que ça vire vraiment tout le temps vers les bienfaits sociaux que plutôt les services, tu sais, comme ouais, les services matériels, là, si on veut dire, là, que quand tu as reçu le service par la sécheuse, oui, ben il a réglé ton problème, mais tu avais beaucoup parlé aussi de des discussions que tu avais eues puis que tu avais passé une excellente soirée. Puis encore une fois, quand tu donnes le service, qu'à ce moment-là, ben c'est la même chose, en fait, qui se produit, que tu te dis, ben finalement, c'était autant social, voire plus, dans ce cas-ci, clairement plus. Là. Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que tu penses que c'est... Ouais, ma question, c'est ça. Je vais redire la question parce que c'était plus une observation. Mais si c'est une question, c'est ça. Sais-tu que tu voulais vraiment amener cet angle-là de l'avant ou si on se rend compte qu'effectivement, pour la grande majorité des gens, c'est le point social qui revient le plus?
Mm-hmm. Mais à travers les entrevues, oui, l'aspect social est ressorti plus que je pensais. Parce que l'accorderie, c'est vrai qu'on peut voir ça juste comme... Si on le voit super simplement, c'est juste des gens qui s'échangent de services, puis ça finit là. Mais quand le gars est venu réparer ma sécheuse, j'imagine que si le gars n'avait pas été aussi sympathique, peut-être que ça aurait été quelqu'un de, je sais pas, qui a moins de jasette. Là. Peut-être que ça l'aurait été différent, puis j'aurais peut-être dit dans le balado, ah, je suis juste content que ma sécheuse fonctionne, puis elle n'était pas si malade que ça. Puis, mais là, ça a pris une toute autre tournure. Avec cette dame-là, c'est sûr que moi, dans le fond, c'est. Quand j'ai approché l'accorderie de Sherbrooke, je leur ai dit, ben là, j'ai mis mon profil en ligne. Puis moi, ce que j'aime m'offrir comme service, même en dehors de l'accorderie, c'est faire des les fêtes du monde, aller me promener en auto, j'aime ça me promener, tout ça. Fait que là, j'ai dit, c'est ça que je vais offrir. Puis quand je suis arrivé chez cette dame-là, ben le service était quand même assez... assez simple d'aller acheter un humidificateur. Puis, tu sais, c'était quand même assez long d'aller faire tout ça. Fait que là, on a appris à la connaître. Puis, ça a donné comme ça, vraiment, que, tu sais, qu'elle, on a eu un bon lien, puis elle a commencé à me conter sa vie. Puis, j'ai vraiment constaté, peut-être si j'avais pas été dans le contexte d'un documentaire ou que je n'avais pas peut-être un profil de quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est social, j'aurais peut-être pas perçu que le bien que j'y faisais, juste en simplement en étant là. Puis j'ai aussi découvert qu'elle disait « Ah, dans le fond, moi, ça me stresse d'être à la caisse. Juste d'attendre, d'avoir quelqu'un avec moi, ça me rassure. » Fait que là, tu sais, dans le fond, le service, c'est quoi? Je fais pas vraiment un lift. pas vraiment ça. C'est quoi le service gérant? Fait que finalement, c'était comme quasiment ma présence. Fait que là, ça m'a amené ça. Mais c'est sûr, ça aurait pu être autrement si ça aurait été comme une autre personne. Je pense des fois, c'est ça, la magie. C'est un peu qu'Étienne dit de même, là, mais c'est la magie du documentaire, dans le sens que des fois, tu vas enregistrer des choses, puis tu sais pas trop ce qui va arriver. Puis des fois, ça sert pas le propos. Des fois, ça le sert. Des fois, ça t'amène à un endroit que tu pensais pas. Ben ça, c'était une scène, justement. Parce que, tu sais, moi, dans le processus de faire ça, tu sais, c'est pas nécessairement tout le temps dans l'ordre qu'on met les choses. T'sais. C'est-à-dire, tu sais, cette scène-là avec José, ben, elle s'appelle José, la madame. Ben, j'aurais pu le mettre dans l'épisode 3. Tu sais, j'aurais pu le déplacer. Mm-hmm. Mais dans la trame narrative, ça tombait bien que ça soit là, justement.
Fait que dans votre épopée là, avec la dame, là, vous êtes allé au Canac. Puis là, vous avez même flirté, même plus que flirté. Là, je dirais, il y a eu un bout que l'humour était un peu mis de l'avant là, quand vous choisissez le type d'humidificateur. J'ai d'ailleurs eu à peu près cette situation-là quand je m'en suis acheté un il y a quelques années. Là, ils sont tous pareils et différents.
Ouais,
à la
c'est
fois.
Pas évident.
Je pense que c'était le premier élément d'humour qu'on voyait dans la série. Est-ce que c'était conscient? Est-ce qu'on le revoit ailleurs dans la série de podcast?
Ouais, ben en fait, oui, c'est un effort parce que. Ben, quand tu fais des montages comme ça, surtout quand t'sais, le balado au total fait plus de 3 heures, t'sais, fait que c'est vraiment tout le temps comment garder l'auditeur. Puis ça, il y a plusieurs façons de le faire. T'sais, un peu comme je disais l'autre fois, c'est d'avoir une bonne synaxisation, d'avoir des punchs, d'avoir des péripéties. Mais quand il y a une situation dans quelque chose que tu as enregistré qui est drôle, ou quand en narration tu peux dire quelque chose qui est drôle, c'est un peu plus difficile. Tu le fais, tu le mets.
Ouais.
C'est sûr que la situation comme telle, au Canac, on choisit un humidificateur. C'était pas pensé pour être drôle, mais c'est juste en montage. Moi, j'ai vraiment trouvé ça drôle. J'ai vraiment eu l'air j'ai vraiment constaté qu'on avait l'air perdu. Là.
Ouais,
puis là, en montant, j'ai vraiment souri, puis j'ai décidé d'en mettre plus. De mettre cet aspect-là plus en évidence.
Ouais, c'était comme un, t'sais, comme 3-4 jump cuts de ouais. « Oh, le filtre!
Ouais, »
Ah non, le filtre! Ouais,
d'amener des punchs comme ça, puis je l'ai fait à d'autres endroits, mais c'est tout le temps un peu en subtilité, tu sais, puis c'est tout le temps avec le matériel que j'ai. Dans l'épisode 4, d'ailleurs, sans aller trop loin, il y a un petit bout là, que c'est vraiment... Il y a des gens qui se rencontrent,
okay.
Puis ils sont vraiment drôles. Là. Puis là, justement, je l'ai mis en valeur, ça, parce que à mon avis, c'est important qu'on sourie aussi en écoutant. Là. Sinon, c'est pas que ça soit trop sérieux. Là.
Ouais, ben c'est ça, j'imagine que c'est très conscient là, à t'entendre parler de... Tu parles d'un sujet qui est sérieux, somme toute, parce que évidemment, on rentre rapidement dans des sujets comme la solitude chez les aînés, puis des problèmes de la société qu'on parle souvent comme de quoi d'assez épouvantable. Puis de mettre de l'humour là-dedans, c'est... Ben, ça fait du bien... Ouais. Mais c'est est-ce que on sait et où la ligne avec l'expérience de tu sais on sait est-ce que je, ben tu sais on en tout cas c'est un sujet qui est souvent parlé puis
ouais.
Que je travaille en radio on en parle souvent là mais est-ce que ça enlève aux propos tu sais de mettre de l'humour est-ce que c'est un petit peu tourner au ridicule quelque chose qui devrait qu'on devrait pas rire ou tu sais
Moi, c'est tout le temps jusque où que tu vas là-dedans mais dans le cadre de ce projet-là, c'est plus de l'humour un peu clin d'œil, anecdotique, de l'humour un peu taquin, tu sais.
Ouais, ouais.
Parce que d'aller plus loin, ben là, c'est comme... C'est quand tu fais un documentaire, comme chose, faut toujours que tu gardes une certaine ligne, tu sais, que tu ne deviennes pas hors sujet, tu sais. Si, mettons, j'ai un ton tout le long, puis là, je vire super humoristique à partir du 4, puis c'est juste ça, le monde va dire « Oh ouais, qu'est-ce qui est arrivé? » tu sais. Puis là, la logique de la série n'est plus là, mais c'est ça, c'est plus de l'humour, clin d'œil. C'est sûr, c'est un sujet délicat, fait que, tu sais, ce serait pas une bonne idée de faire une joke déplacée là. C'est ça, plus de genre d'humour là que je pense que c'est possible.
OK, ouais, plus dans ce que ce que tu as enregistré avec les gens plutôt que ta voix en voice-over qui fait des liners sur les humidificateurs. Là. Ouais. Ben, sur ça, on en a parlé. Là, tu vas à Shawinigan, c'est ça, dans l'épisode 3. Ben, ouais. Veux-tu nous faire une présentation avant qu'on se lance directement dans l'écoute de l'épisode 3?
Oui, le 3, ben, c'est ça. On se déplace à Shawinigan. Puis j'ai vraiment voulu faire sentir là, la route. Là, que c'est un road trip. On se rend là-bas. puis justement, on est accueillis là-bas, on rencontre des gens. C'est vraiment un épisode très aventure au sens que, tu sais, ce que j'ai voulu amener dans tout l'épisode, c'est qu'on explore, tu sais. On rencontre des gens, on s'en va à une place, on s'en va à l'autre. C'est que ça... C'était ça mon intention. Puis en tout cas, en l'écoutant, vous allez peut-être voir si ça a fonctionné. Je pense que ça a fonctionné un peu, là. En étant modeste, là.
Ouais, ben finalement, on n'écoute pas tout de suite. J'ai une autre question.
Ouais, ouais, OK.
Et quand, c'est ça, on va à Shawinigan, tu sais, est-ce que c'est... Ben, j'ai encore un anglicisme, là, mais c'est-tu un leap of faith, là? Est-ce que c'est... est-ce qu'il y a une pré-entrevue qui se fait parce que là tu vas chez une dame, est-ce que comme où tu fais confiance en la vie puis on verra ce que ça donne, tu sais, c'est quoi la préparation qui vient avec ça, là, un déplacement comme ça?
Ouais, il y a toujours une préparation avant quand même si dans le documentaire ça a l'air complètement on s'en va là sur un coup de tête, là. Mais ceci dit, des fois ça arrive, ça arrive que des scènes que tu l'as su la veille puis t'as pas eu le temps de te préparer, puis là tu y vas, puis là tu dis bah on y arrivera ce qui arrivera, au pire ce sera un enregistrement que j'utiliserai pas. Mais là, c'est sûr, j'avais parlé à la directrice de la corderie avant. Hein, j'avais essayé de voir avec elle c'était qui à qui je pouvais parler. Il y a des entrevues qui étaient plus planifiées, mais tout ce qui est ce qu'on appelle les vox pop, ça, c'était pas planifié. C'est des gens qui sont là, puis à l'événement, puis tu les accostes. C'est sûr que c'est tout le temps payant d'annoncer que tu vas être là à enregistrer. Parce que quand tu vas là, puis là, cette journée-là, j'avais un preneur de son avec moi, avec une perche.
Ah oui?
Okay. Des fois, quand tu arrives avec une perche, tu te dis « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Puis même quand tu fais un podcast, des fois, les gens pensent qu'il y a une caméra, tu sais. C'est beau leur dire qu'il n'y a pas de caméra, mais
non,
ils pensent qu'il y en a une. « Là, je suis filmé. » Non, non, c'est juste « Coiffe-toi pas tes cheveux, là, t'es déjà... » C'est juste audio pour le monde. « Ah, ils sont tous rassurés après. » Fait que oui, j'essaie d'avertir les gens. Des fois, ils savent pas, mais il y a une préparation. C'est toujours payant quand même d'un peu savoir de quoi tu vas parler parce que tu as le temps de te faire une tête.
Ouais, c'est ça. Ben, sur ça, ben merci Jean-François. Fait qu'on on s'en va écouter l'épisode 3 ensemble.
Vous écoutez S'accorder, un balado documentaire où je vais sur le terrain pour découvrir l'impact des accorderies par la voix de ceux qui en font partie.
T'as-tu testé le 2, le mien, celui-ci?
Ouais.
Ouais, OK, ça sonne bien.
Toi, t'es correct.
Sure.
Celui que vous venez d'entendre, c'est Jean-Sébastien Dutille, un réalisateur avec qui je travaille depuis 6 ans. On a fait plusieurs projets ensemble, mais cette fois-ci, je lui avais demandé si c'était possible pour lui de m'aider avec la prise de son du balado. Après avoir enregistré quelques jours à Sherbrooke, j'avais besoin de sortir de mon patelin pour entendre ce que les membres d'une autre accorderie avaient à dire. On roulait en direction de Shawinigan et en chemin, j'ai demandé à Jean-Sébastien si ça lui tentait que je parte l'enregistreur, juste pour le fun, ou quasiment, et qu'on échange sur la situation de ses grands-parents par rapport à la question du maintien à domicile. Il me parlait souvent d'eux et j'étais certain qu'il y aurait de quoi d'intéressant à raconter là-dessus. J'avais bien visé parce que Jean-Sébastien est très proche de ses grands-parents.
Ça fait une quinzaine d'années que je...
Entre deux sorties d'autoroute, il me racontait qu'ils avaient vendu leur maison il y a quelques années parce que c'était trop d'entretien. Maintenant, ils vivaient en appartement. C'était moins exigeant. Enfin, jusqu'à temps que les problèmes d'arthrose et de vertige de sa grand-mère commencent à s'aggraver.
Il y a comme une limite d'âge. À un moment donné, là, tu...
Avec un peu d'émotion, il m'expliquait également que les problèmes physiques de sa grand-mère l'avaient forcé à abandonner ses parties de bowling qui étaient une de ses activités sociales préférées. Mais bon, heureusement, c'était moins difficile pour son grand-père, qui arrivait encore à s'entraîner et à jouer au golf plusieurs fois par semaine. Il était très actif. Mais Jean-Sébastien s'inquiétait.
Mais c'est aussi, j'imagine, socialement. T'sais.
Qu'est-ce que son grand-père allait faire pour occuper son temps quand il ne pourrait plus faire tout ça? Il avait peur que tous ces problèmes-là viennent qu'à isoler ses grands-parents. Après un autre arrêt pour mettre du gaz et prendre un autre café, ben oui, j'en avais pris un il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à Jean-Sébastien si ses grands-parents avaient de l'aide du réseau de la santé, notamment pour l'entretien de leur appartement. C'était plus ou moins le cas pour l'instant, parce que c'était eux, la famille, qui les aidaient. C'était pas évident. À l'écouter, je voyais clairement comment la vieillesse, notamment par les changements liés à l'état de santé, réduisait les possibilités pour les aînés à plusieurs niveaux. Tant au sujet de l'entretien d'une habitation, par exemple, que socialement. Ses grands-parents étaient toujours autonomes, mais disons qu'ils étaient à une étape où c'était nécessaire pour eux de s'entourer d'une façon ou d'une autre. Pour l'instant, la famille de Jean-Sébastien les soutenait, mais c'était-tu suffisant? Pendant que je me demandais ça, je me disais que ses grands-parents correspondaient un peu au profil d'aîné que l'accorderie cherche à aider. Mais en roulant et en continuant de discuter, je prenais conscience que je n'avais pas encore une idée assez claire des retombées des services qui ont été rendus aux aînés. Est-ce que l'accorderie avait fait ses preuves pour offrir de l'aide concrète, comme par exemple tondre le gazon? J'avais besoin d'en savoir plus et d'entendre d'autres histoires. On s'approchait tranquillement de Shawinigan et je disais à Jean-Sébastien que la première personne qu'on allait interviewer était Edith. C'est une femme très impliquée parce qu'elle est à la fois la directrice de l'accorderie de Shawinigan et la présidente du réseau des accorderies. On est arrivé chez elle un peu plus tard que prévu.
J'espère que c'est la bonne place.
Allez,
bonjour, bonjour, ça va?
Alors,
on est fini.
Alors, oui. Vous autres, ça va bien?
Oui, oui, très bien, très bien.
La route était longue, hein?
Ouais, ouais, c'était intense. Puis conduire le soir, je suis rendu plus pépère le soir. Là. Tu sais, je vais moins vite là, qu'avant. Là.
Ben, c'est mieux, hein? C'est ouais. Mieux pour les points, pour les garder le permis, là.
Exact. Puis arriver en un morceau, est-ce que
moi,
tu
vois arriver, tout ça. Oui, oui,
ouais, ouais.
Ben, bienvenue chez nous.
On a vraiment été bien accueillis. Mais il fallait absolument interviewer Edith le soir même parce que le lendemain, elle serait occupée toute la journée. Mais heureusement, elle nous hébergeait pour la nuit.
On va monter les deux chambres.
OK.
Il y en a un de vous autres qui est là.
Okay.
Mais vous avez une chambre de bain ensemble.
Ouais. Recevez-vous souvent des invités, des gens qui passent dans le coin? Puis,
Ben, nous, ben, surtout maintenant pendant les fêtes, on a 4 enfants.
OK.
Pour ça, ça prend de la place. Là, c'est clair.
Oui. Vu qu'il est tard, est-ce qu'il y avait-tu un endroit, tu penses, qui serait comme qu'on pourrait s'installer pour faire la petite entrevue avec toi?
Oui.
Oui, plus là-bas, vous avez trouvé un spot, finalement.
Oui.
Ah, ici.
Ici, c'est-tu correct?
Pour de vrai, c'était parfait. Edith avait pris le soin de préparer nos chambres et de tout installer pour l'entrevue.
C'est mon entrevue la plus tard, je pense, que j'ai faite depuis. Là. Fait que je mets ça.
Le Québec, c'est grand.
Oui, 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 oui.
Pour te déplacer, c'est pas...
Ça, je disais, on est dans le nord du Québec. On est venu à Shawinigan.
Elle était pas encore dans le nord.
Non, c'est ça.
Edith était bien sympathique et attachante. Et elle jouait bien son rôle de présidente du réseau des accorderies.
L'accorderie, moi, je trouve ça tellement important dans tous les niveaux, soit social, soit échange de services, ou rester plus...
Elle était convaincante et surtout convaincue.
C'est important et on a des demandes de partout pour créer une accorderie. Mais...
Plusieurs personnes reconnaissaient la valeur des accorderies. Et Edith avait une vision très claire du rôle qu'elle devait jouer.
C'est vraiment pour exploiter nos forces et déléguer nos faiblesses.
Déléguer nos faiblesses. Ça avait du sens. Et ça m'a amené à aborder avec elle le sujet du maintien à domicile, ou plus précisément sur comment l'accorderie pouvait aider les aînés. Edith était très sensibilisée à la question.
Nous, ça commence à nous concerner, là.
Ouais.
Nos enfants, là, ils sont partis et tout ça. Hey, mon chum est rendu à 73 ans, là. Et si nous, on pense comme ça, c'est sûr qu'il y a d'autres mondes exactement la même ouais. chose. Et tu veux rester le plus longtemps possible chez toi. Mais il va y avoir des éléments que tu n'es plus capable de faire. Mmh. Et en accordant, tu peux faire ça.
Ce qu'elle disait rejoignait ce que j'avais déjà entendu. Mais j'étais curieux de voir c'était quoi, selon elle, les services qui étaient les plus demandés à Shawinigan.
Des demandes de garde de chiens, jardinage, initiation au téléphone intelligent et tout ça, informatique, ça, mon petit fils peut en parler.
Plusieurs membres de la famille d'Edith s'impliquent à la corderie. Son petit-fils donne des services d'informatique et son mari, Ernest, qui est un homme à tout faire, offre des menus travaux et de l'aide pour la rénovation. Disons qu'il est très sollicité parce que d'après Edith, et même Paul aussi, c'est ce service-là qui serait le plus en demande chez les aînés. Elle m'apprenait également que ces personnes-là avaient souvent le même profil.
C'est surtout des personnes seules ou qui ont perdu leur partenaire. OK, c'était toujours le mari qui faisait tout. Okay, il faisait de l'électricité, de la plomberie. Là. Et la madame est complètement perdue. Les enfants sont loin, mais il y a seulement là, un robinet qui coule. Là. C'est la panique. Qu'est-ce que je fais avec ça?
C'est clair que le décès d'un partenaire pouvait laisser soit l'homme ou la femme assez mal pris. Et d'autres fois, c'était une santé déclinante qui poussait certains aînés à demander de l'aide.
On a vraiment une madame, là, elle a plus que 80 ans et... Elle est très, très fragile, mais la voix est encore là.
Mm.
Et c'est les accordeurs qui vont arranger son... Elle a un immense jardin, toute beauté et tout, mais physiquement, elle n'est plus capable.
Mm.
Mais elle est capable de dire, là, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et c'est chaque année, là, les accordeurs, ils vont lui arranger ça. Et elle est encore dans sa maison. Elle n'est pas partie en résidence. Mais seule, elle ne sera jamais, jamais capable.
Oui, ça lui a permis de rester.
Et engager quelqu'un, ben ça devient, pour la plupart du monde, ça devient trop cher.
À certains moments, et ça, je trouve ça vraiment intéressant, des accordeurs se mobilisent ensemble pour faire ce qu'on pourrait appeler des corvées d'entraide. C'était à la fois efficace, parce que plus de travail pouvait être fait, mais ça permettait à des gens, comme cette dame-là, de faire le plein de bonnes rencontres.
Tout un après-midi, une gang qui vient chez toi, là, c'est déjà... La journée est sauvée, ou peut-être même la semaine. Ça aussi, on s'est rendu compte. Ça prend très, très peu pour rendre quelqu'un heureux.
Elle avait raison. Des petits gestes et la visite d'une ou de plusieurs personnes chez soi, surtout quand on vit seul, pouvaient avoir des impacts majeurs.
On avait une accordeur très, très active, une madame. Elle avait vraiment beaucoup d'heures et tout ça. Elle tombait malade, phase terminale de cancer. Après ça, elle ne voulait pas mourir à l'hôpital.
Mm.
OK? Mais elle n'avait pas de famille. Personne, j'ai rarement vu ça. Pas loin, la parenté, rien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est... Et on lui rentrait un lit d'hôpital dans son logement. Il y avait une infirmière qui venait une fois par jour pour les choses médicales. Le reste, 24 heures, pendant 2 mois et demi, il y avait toujours minimum un accordeur avec elle. Et c'était pour lire des histoires, pour faire des petits ménages, pour faire à manger, la peigner et tout ça. Et après les deux mois et demi, elle est décédée, mais pas décédée seule.
Au moment où est-ce qu'on a enregistré Edith dire ça, je me suis dit que c'était une des plus belles histoires que j'avais entendues depuis le début du projet. Ça m'a aussi fait apprendre quelque chose. C'était possible pour les accordeurs ou une accorderie de transférer des heures à des membres dans le besoin. Il faut également préciser que, dans le cas de cette dame-là, l'aide qu'elle avait reçue, c'était pas uniquement de l'assistance technique. C'était de simples contacts sociaux qui la consolaient de sa peur et de sa solitude. Bénéficier de cette présence-là, c'était une richesse, qui malheureusement n'est pas accessible à tout le monde.
Le COVID, l'exclusion sociale... a énormément dépassé la pauvreté monétaire.
Mm-hmm.
Parce que la pauvreté monétaire, là, dans les partages, aller chercher des paniers, même être capable d'aller chercher leur pain tous les jours ou n'importe, et ça, c'est tel que tel. Mais la solitude, l'isolement, ça, c'est grave.
Edith me faisait prendre conscience que le contact humain était quelque chose de plus difficile à acquérir que des denrées matérielles comme un repas, par exemple. L'isolement semblait un mal plus dur à guérir. Et c'était encore plus criant en milieu rural.
Ici, au lac, ils viennent de nous fermer la caisse. OK? On n'a pas d'épicerie, on n'a plus rien. Okay? Après ça, il y avait une vieille madame, il dit, ben, il nous enlève ça aussi. Et la caisse, c'était une fois par semaine ma vie sociale. Je placotais quelqu'un avec un peu, et je connaissais tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle va faire, la madame? Elle va se laisser mourir, là. D'une certaine manière, parce qu'elle n'a pas de moyens, là, elle est seule. Ouais. Mais si elle est accordante, mais on offre tout le temps aux activités le moyen de transport. On vient vous chercher et tout ça.
Ouais.
Autrement, bien, ils restent chez eux. Ouais. Pour ça, c'est tous ces éléments-là que moi, je trouve... c'est une nécessité, là, avoir des accorderies, là. Parce que plus que tu vas vers la campagne, ben,
ouais.
T'as pas de transport public, t'as rien, là. Même nous autres ici, t'es vraiment loin de tout, un peu, là. Et dans le Mikinak, c'est vraiment l'enjeu numéro un.
Sans épicerie, sans café, sans caisse et sans lieu de rassemblement qui peuvent se faire à pied, le risque d'isolement est plus grand qu'en ville. Et Edith me parlait de ça parce que l'accorderie de Shawinigan s'occupe aussi de la région de Mikinak qui est presque uniquement composée de petits villages. C'était pas toujours évident pour les personnes qui habitaient dans ces lieux-là de rester connectées. Edith m'expliquait par contre que son accorderie organisait des rencontres hybrides, à la fois en ligne et en présentiel, pour contrer le problème. J'étais pas mal convaincu. Qu'on soit à Sherbrooke ou à Shawinigan, et je suis sûr que c'était le cas ailleurs, ceux qui étaient à la tête des accorderies me prononçaient presque tous ces mots-là.
Le social est très, très important. Parce que ça, quand quelqu'un est bien dans sa maison ou dans son appart, ben, ils vont rester. Là. C'est pas seulement là, les aînés, OK, on rend service et tout ça, mais garder une bonne qualité de vie, être bien dans leur peau. Là.
J'ai parlé avec Edith de presque tout ce qui concerne l'accorderie. Imaginez, on a commencé l'entrevue à 10h et on a fini à 11h30. Avec le plus de 2 heures de route pour me rendre à Shawinigan et une semaine bien remplie, j'étais épuisé. En allant me coucher, par contre, un aspect de ce qu'elle m'avait dit m'est revenu à l'esprit.
Moi, je vois dans toutes les générations, aussi chez les personnes âgées, nous, on a comme l'impression d'une certaine léthargie qui s'est installée. Et de repartir la machine, là, OK, il y a encore... beaucoup de craintes, beaucoup plus qu'on pense. Parce que tu as toujours un certain pourcentage, ils sont membres, mais ils font rien.
Après la visite de 2 villes, je constatais que l'impact de l'accorderie sur les aînés était important. Mais il y a un problème, par exemple. C'était pas nécessairement évident d'amener les principaux intéressés aux portes de l'organisation. J'ai vraiment bien dormi cette nuit-là. En fait, je dois dire cette courte nuit-là. J'avais fixé mon alarme à 7 heures ce matin-là parce que Jean-Sébastien et moi, je vous l'avais pas dit, on s'était pas juste déplacés pour voir Edith. On était passés ce jour-là parce que l'accorderie de Shawinigan allait tenir un kiosque d'information à un événement majeur qui s'appelait 100% aîné. C'était l'opportunité idéale pour l'accorderie de se faire connaître et de mon côté, c'était une occasion en or d'en apprendre plus sur les aînés et sur l'enjeu du maintien à domicile. Après avoir déjeuné chez Edith avec Jean-Sébastien, Edith et son conjoint étaient partis très tôt pour préparer la journée. On s'est déplacé rapidement à l'événement qui se tenait sur le terrain du Centre d'action bénévole de Shawinigan. Juste pour vous dire, il était à peine 9 heures du matin et on avait de la misère à stationner. Des centaines de personnes étaient déjà sur le site. Malgré le fait qu'il y avait beaucoup de monde, on s'est trouvé une place de stationnement et on a rapidement croisé Edith.
Et après ça, les kiosques, tout ça, vous faites ça et après...
Ouais.
Elle nous a informé davantage sur l'événement, mais aussi sur le grille-pain de son mari qu'on n'avait pas du tout réussi à faire fonctionner.
C'était un des premiers cadeaux de nos anciens propriétaires.
OK.
Pour ça, lui, il garde ça là bout. Mais il est le seul qui est capable de faire fonctionner.
Mais y a-t-il un piton là-dessus? Il veut
non,
comme
non, ben il y a un piton seulement, là, mettons, si tu veux plus,
okay, ouais, ouais,
plus
ouais.
Foncé. Mais le reste, là, c'est seulement pouf, et ça descend seul.
OK.
Mais...
Le mystère du grille-pain était donc résolu. Tendre le micro à Edith pour qu'elle me parle de ça a permis à Jean-Sébastien de finir son test de son et on a finalement pu s'approcher du cœur de l'événement.
Ça marche-tu?
Ça marche, mais c'est que j'ai 14 fils, fait que...
Ouais, ouais,
OK, c'est bon.
Pas que tu t'entremêles dans les fils.
C'était impressionnant. Au loin, il y avait un grand chapiteau qui abritait de nombreux exposants. Les kiosques se comptaient par dizaines et ils étaient associés à plusieurs organismes et partenaires. C'était dynamique. Il y avait aussi l'espace bien-être.
Sur l'espace gazonné, il y a massage sur chaise, acupuncture jusqu'à 16h.
En résumé, l'événement offrait toutes sortes d'opportunités aux aînés d'être mieux dans leur peau et de rester actifs.
On veut bouger. On veut sortir. On veut que les gens sortent de la maison. Vous savez que la pandémie nous a rentrés un petit peu à la maison. Là, elle est terminée.
C'était vivant. Écoutez, il y avait même un espace de danse. Tout avait été pensé pour que la journée soit parfaite et il faisait beau en plus. Il y avait même une conférence de Marcel Leboeuf.
Hey, je m'en vais sur 70 ans. Fait que moi aussi, là, 100 % aîné et tout, là, moi je suis là-dedans au bout. Là, pis...
La salle était pleine et Marcel a parlé de son père.
Quand ils ont commencé à dire que le monde de 70 ans et plus fallait qu'il reste en dedans, là, okay? Toute cette période-là, mon frère André, il va à la résidence de papa. Puis habituellement, mon père, il sortait sur sa galerie là, de la résidence, ça. Cette journée-là, papa, il sort pas. Puis à un moment donné, mon frère, il voit mon père sur le trottoir, il prend une marche. Mon frère, il se fâche après mon père. Il dit, « Hey! Ils ont dit le monde de 70 ans en dedans. » Mon père, il dit, « Hey! Ils ont dit 70 puis 80. Et j'ai 94! » Fait que lui, dans sa tête, ça comptait pas. Il était correct, là, tu sais.
Marcel savait très bien comment captiver son public. Il a aussi fait hommage à son grand-père.
Ce gars-là, ça a été mon héros. Ça a été mon grand chum, ça a été mon guide. Il est mort en 1991, mon grand-papa maternel. J'ai tellement aimé mes grands-parents. L'importance des grands-parents dans une vie. Si maintenant vous êtes des papis et des mamies, là, l'importance que vous avez pour vos petits-enfants, on ne le dira jamais assez souvent. Moi, mes grands-parents, ils ont changé ma vie positivement parlant.
La conférence de Marcel a été appréciée par tout le monde. Et après ça, on a été explorer les kiosques des organismes.
Je te tiens la porte.
Il y avait des ressources pour tous les goûts, ou presque.
Nous avons créé un traîneau pour personnes handicapées, mais c'est autant pour les personnes âgées, les personnes en santé, parce que ça amène les personnes à sortir de leur chez-eux. Pour l'hiver et autant l'été, parce qu'on troque les skis pour devenir en roue.
On explorait. Et à un moment donné, on a croisé Claude, un accordeur qu'Edith nous avait présenté plus tôt.
Les gens ont besoin d'aide, surtout en vieillissant. Mais quand on dit venir en aide à ces gens-là, ça nous aide à nous aussi, parce que ça nous apporte beaucoup côté satisfaction. Puis un jour, c'est nous qui allons vieillir, on va avoir besoin de nous aussi. Fait qu'on espère qu'on va avoir de la relève. Plus on va être connu, plus on a des chances de s'entraider mutuellement les uns avec les autres.
Jusqu'à maintenant, je pense que personne n'avait souligné que donner des services aux aînés, ça avait aussi un effet positif sur ceux qui les offraient. Et cette entraide-là dont Claude parlait, ça évitait aussi le pire pour eux.
J'ai vu des gens pleurer parce qu'ils devaient partir de chez eux, n'étant plus capables de l'entretenir, la maison. Puis, ça dérange, là. Il faut quand même les aider. Puis, d'autant plus que quand on fait la demande pour aller rester dans un HLM ou peu importe, c'est pas toujours évident d'aller là, là.
On voyait que Claude était sensibilisé aux défis des aînés. Et il m'a aussi dit, à sa façon, ce que tout le monde m'a dit.
Ça amène beaucoup de joie, surtout pour les personnes qui sont seuls. Le court instant qu'on leur donne, soit quelques minutes ou quelques heures, bien, pour eux, ça peut leur faire du bien pour une journée, une semaine. Tant qu'on peut parler entre nous autres, le moral est bon.
Ouais.
C'est ça qui est important.
Claude me rappelait ce que Edith disait sur à quel point des petites actions pouvaient avoir des conséquences non négligeables sur les aînés dans le besoin. Il m'a dit ça et aussi cette phrase-là.
La solitude nous fait mourir, puis vivre en groupe, ça nous fait vivre. Fait que, on choisit de vivre, hein?
Ouais, c'est un choix difficile, là, c'est ouais, ça? Ouais.
Ces mots-là, sincèrement, je pense que dans toutes les heures que j'ai enregistrées, c'est ceux qui m'ont le plus frappé. Selon Claude, pour vivre, fallait éviter un excès d'isolement. Encore une fois, l'importance de l'élément social s'imposait. Et on l'entendait aussi entre les kiosques.
Ben, Jocelyne, c'est ça, elle était sa déprime. Là, elle travaille dans une boutique de linge.
En dehors de recevoir des services ou de la visite, pour beaucoup, sortir de l'isolement et de la déprime impliquait de rester actif, par l'emploi ou d'autres activités.
À soir, mon beau boulot. Oui,
c'est bon, c'est ça. Ça aussi, ça garde en forme.
Ah oui, ouais, vous deux fois par semaine.
Disons que l'événement auquel on participait, c'était en grande partie ça. Une tonne d'opportunités pour les aînés de se mettre en mouvement.
Je donne des ateliers d'art, mais j'aime dire que c'est surtout récréatif. On ne vise pas un résultat, on fait des ateliers vraiment dans le but de passer un bon moment, se libérer.
Pendant que la femme continuait de nous expliquer ses ateliers, j'ai remarqué qu'une aînée y participait.
Vous aimez ça?
Ben oui, j'aime ça parce que moi, je faisais de la peinture à l'huile. Puis ça m'intriguait beaucoup, la peinture à l'eau.
Puis quand on est dans, en train de créer, on ne pense pas à toutes nos autres affaires, hein?
Non,
on est dans le moment présent.
Oui, on se découvre.
Oui, il n'y a pas d'âge.
Je pensais que je ne pouvais pas faire ça, puis là, je suis dedans.
Oui.
C'est le fun.
Je pense que, comme l'élément social, la mise en mouvement des aînés est un autre aspect clé du maintien à domicile. Fallait que j'explore ce filon-là un peu plus, pour voir comment les accorderies s'inséraient là-dedans.
Aujourd'hui, là, les gens vivent de plus en plus vieux. Fait qu'on veut vivre de plus en plus vieux, mais en forme, en santé, être autonome. On veut, l'autonomie, c'est la clé. On veut rester, être capable de faire nos choses nous-mêmes pour pas demander à tout le monde ou rester alité puis être à charge de quelqu'un. Fait que de bouger, de prendre tous les moyens pour rester actif, ben, ça nous permet de maintenir cette autonomie.
À écouter cette femme-là, être actif amenait à une certaine autonomie qui était finalement une condition essentielle pour rester à domicile. Ça avait du sens. Et il fallait que je continue de réfléchir à ça. Moi et Jean-Sébastien, on a donc décidé de suivre une gang d'aînés qui participait à une marche collective de 2,5 km qui avait lieu pendant la journée. Avec tout notre kit de son puis notre longue perche avec un micro au bout, disons qu'on détonnait un peu.
C'est la... C'est la perche.
Malheureusement, on en avait effrayé une. Et elle a dû reprendre son souffle avant de me parler.
Vous venez marcher un matin, c'est la première fois que vous faites ça?
Oui.
OK, ça, c'est le fun à faire.
C'est le fun.
C'était agréable pour ceux et celles qui étaient là. Et ça me faisait prendre conscience que je manquais de souffle, moi aussi.
Il y a beaucoup de côtes à Shawinigan.
Oui, oui,
ouais. Ça me fait penser à Sherbrooke un peu.
Ouais,
là,
oui,
Sherbrooke,
c'est
une
des côtes.
Je pense qu'on était peut-être une vingtaine à marcher cette fois-ci. Et certaines étaient beaucoup plus habituées que moi.
Moi, je vais marcher tous les soirs, ça fait du bien.
Ça fait du bien...
Bien, ça fait du bien, ça nous met en forme. Sans ça, on va rire, si on fait rien.
Oui, oui, ouais, non, c'est ça, on va se maintenir actif.
On va rouiller si on fait rien. Disons que l'image était forte. Avant de laisser la personne partir, je lui ai posé une autre question.
Connaissez-vous la corderie à Shawinigan? Ça vous dit quelque chose?
La quoi?
La corderie.
Ah, ça va pas.
À ma grande surprise, la plupart des gens qui étaient là connaissaient pas la corderie.
La corderie Shawinigan, ça vous dit quelque chose?
Non, ça non.
Vous connaissez ça?
Non.
La corderie, c'est comme...
Non, c'est pas ça.
La plupart des personnes qui marchaient avaient jamais entendu parler de la corderie. Sauf quand je les abordais, je me rendais compte que ça pourrait les intéresser.
Mais tantôt, tu parlais d'un organisme à Shawinigan.
La corderie?
Oui.
Ça dit quelque chose?
Non, pas vraiment, mais est-ce qu'ils offrent des services aux autres à domicile? Mettons, comme en vieillissant, tu as toujours besoin d'un peu plus de soins, comme, mettons, on voudrait avoir quelqu'un qui vient laver mes vitres de maison ou Faire du ménage, des choses comme ça, ouais. C'est ça qu'ils font, là?
Exactement. Ben, tu sais, en fait, c'est un système d'échange, puis justement, c'est un de leurs objectifs, eux, d'aider justement à que les gens restent chez eux le plus longtemps possible.
L'entrevue avait presque l'air arrangée d'avance, mais non. J'avais jamais rencontré ce monsieur-là.
Toi, tu connais beaucoup de monde qui ont ces besoins-là dans le coin? Tu sais, mettons, il y aurait besoin de...
Ben, dans mon coin, il y a une dame en avant de chez nous, mais je pense qu'elle en reçoit déjà des services là, de différents organismes, dont le CLSC, entre autres, parce qu'elle commence à être un peu... a besoin de soins physiques et d'aide, autrement dit. Hein. Mais nous autres, encore, on est encore jeunes.
Hein. Ben oui, certain. pas du rien, mais...
Juste 81, je pense que c'est encore jeune. Tant et aussi longtemps qu'on va pouvoir demeurer dans notre maison, on va rester là.
Par la force des choses, tout au long de la marche, je m'étais transformé en sorte d'ambassadeur de la corderie.
Mais des fois, la corderie, je pense que c'était quelque chose qui est bien, c'est que des fois, les organismes communautaires, le CLSC,
ouais.
il n'y a plus de monde, il n'y a plus de place, il y a plus, tout est bouqué.
Ouais.
En revenant de la marche, j'ai été rejoindre Edith au kiosque de la corderie.
Ça a bien été?
Oui, il y en a gros qui ne connaissent pas la corderie. Fait que là, je vais les amener au kiosque, là, puis on va s'enregistrer.
Moi?
Oui, ils demandaient si c'était où l'information.
Regarde, avec tout organisme, là, il arrive ici, là, j'ai suivi la gang, là, un peu, là. Ah, je ne savais pas que ça existe à Shawinigan. Je vais me souvenir, mais c'est sûr tout ça. OK, les organismes, on a beaucoup plus de ressources. Qu'est-ce qu'on pense? Je ne parle pas seulement pour la corderie, là, mais c'est aussi côté santé mentale. Il y a énormément d'éléments là, qu'on pourrait alléger là, la vie de beaucoup de monde, là, si on le saurait.
En partant déjà, quand tu deviens membre, tu as un 15 heures qu'on t'attribue en banque. Alors, avec ces 15 heures-là, tu peux demander des services. Fait que tu vas voir dans l'espace membre qui offre légers travaux ménagers, aide ménagère, des choses semblables. Puis tu communiques avec la personne, vous entendez, tu sais, si ça va, si elle le fait toujours, sa disponibilité. Et puis là, si vous êtes d'accord, bien la personne va chez vous.
Très intéressant. Ouais.
C'est agréable. Puis on se sent moins seul aussi quand on sait qu'on peut communiquer, aller chercher de l'aide.
J'ai passé un peu de temps au kiosque. Et après un certain moment, j'ai demandé à deux membres aînés qui étaient sur place si ça leur tentait de me dire quelques mots sur l'organisation. C'était un peu bruyant près du kiosque. Donc on s'est déplacé un peu plus loin. Jean-Sébastien a installé son trépied, son micro, et on était prêts. J'ai commencé la conversation en leur disant que j'étais surpris qu'il n'y avait pas plus de gens que ça à l'événement qui connaissaient la corderie ou qui échangeaient des services à travers l'organisation.
Mais le plus difficile pour que les gens s'incorporent à la corderie, c'est une gêne. Hein? Ben, pour ma part, c'était ça. Au départ, moi, c'était pour aider les gens, pas pour me faire aider. Mais à un moment donné, tu t'aperçois que toi aussi, tu en as besoin. Mais là, demander, c'est pas si facile que ça. Là. Quand tu as fait toujours tes affaires toi-même, tu arrives là, tu dis, là, j'ai vraiment besoin, il faut que je fasse la demande. Fait que faut le faire une fois, deux fois, trois fois, puis même encore. Puis on sait que c'est important. On sait que ça aide. Moi, je suis seule. Fait que c'est sûr que j'ai besoin. À mon âge, plus je vais en avoir besoin. Fait que si vraiment ça m'aide à rester à la maison, tant mieux. Puis là, ce que je ressens, c'est que les gens, je les connais plus aussi, parce qu'on connaît personne au départ.
Ouais.
Fait que là, quand on connaît davantage le monde, avec des rencontres comme on fait aujourd'hui, ça nous permet aussi d'être plus en contact.
La gêne était donc un frein pour certaines personnes. Et même entre les membres de la corderie, c'était pas toujours facile. Les activités sociales servaient à briser ça, mais il existait également d'autres moyens.
Je suis accordeur de liaison. Ça veut dire que quelqu'un qui donne son nom pour être... qui veut devenir accordeur, généralement, moi, Edith, la directrice, elle m'envoie un petit courriel en me disant « telle personne, faudrait que tu l'appelles ». elle veut devenir accordeur. Alors moi, je communique avec elle, on jase de toutes sortes de choses, je prends ses coordonnées. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle est habile, qu'elle aimerait faire? Est-ce qu'elle a des besoins? Puis on jase un peu autour de ça là, pour créer un petit contact. Puis comme je dis, je m'occupe un peu du comité de mobilisation, mais ça, c'est récent. Puis j'ai bien aimé ça, parce que c'est sûr, il faut essayer de trouver des bonnes idées pour l'avenir, le futur, c'est...
Pour faire connaître les la corderie.
Oui, faire connaître la corderie, puis que les gens aussi profitent plus des services.
Il y avait donc plusieurs façons d'aller chercher les aînés pour qu'ils puissent profiter des services de la corderie. Après quelques minutes, j'ai posé une question que j'avais déjà posée à Sherbrooke.
Des fois, on entend que les organismes communautaires sont surchargés, mettons, pour de l'aide au ménage, de l'aide... Tu sais, c'est des services qui offrent pas trop lente, tout ça. Est-ce que la corderie, ça amène un bon complément à ça, pour avoir de l'aide chez soi quand on prend de l'âge un peu? Est-ce que c'est...
Bien, moi, je dirais que oui, sauf que c'est pas nécessairement les offres ne sont pas répétitives là, tout le temps.
Ouais.
Ça veut dire que quelqu'un, là, mettons, ils ont une offre d'un autre organisme qui vont faire à manger chez eux, quelque chose de même. Eux autres sont absents pour un petit bout de temps, mais on peut demander à quelqu'un de chez nous d'aller l'aider pour cette fois-ci.
Ouais,
là, la personne, si elle fait partie de la corderie, naturellement.
Mais ouais. c'est pas un service continu.
Non, ouais. C'est pas un service continu. C'est ça que je voulais dire. Continue. Puis ça sera jamais un service à long terme, dire on va aller faire ton ménage à toutes les semaines.
Ouais.
C'est pas ça l'idée. Non, non, non. C'est de dépanner aussi quand les gens, autant les personnes âgées, des fois aussi un peu moins âgées, qui sont malades ou quoi que ce soit.
C'est comme un peu, c'est de l'entraide. Dans le fond, c'est pas un service. Parce que c'est comme si je demande l'aide de mon agent Sébastien. Là. Je dis, viens m'aider chez nous. Il va peut-être venir une fois, mais là, si je demande 4-5 fois, là, il va peut-être dire, là, Jean-François, là, j'ai pas le temps, là, arrête.
Je te rappelle, la corderie, ils vont t'aider.
Oui, oui, c'est ça.
Les deux accordeurs amenaient un bon point. C'est vrai que la corderie, malgré tous ses avantages, ne pouvait pas garantir des services chaque jour et sur une longue période à ses membres. Ça me faisait réfléchir. J'ai continué de me promener à travers les kiosques.
Bon, René, il va faire du bénévolat.
Oui, il va peut-être commencer le bénévolat.
Ah, ben c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de bénévolat.
Oui. On dirait que ce que cette personne-là disait avait un lien avec ma réflexion parce que, dans le fond, le bénévolat, ça ressemble un peu à la corderie. C'est des gens de la communauté qui donnent à d'autres et c'est pas non plus quelque chose sur lequel on peut compter chaque jour. C'est intéressant tout ça, mais ça m'amène à une autre question. C'est quoi qui distingue le bénévolat du système de la corderie? Je me suis approché du kiosque du Centre d'action bénévole en espérant obtenir des réponses.
Parce que vous êtes le trait d'union, Centre d'action bénévole?
Oui, on est des bénévoles au Centre d'action bénévole. Okay. Oui.
Avez-vous beaucoup de gens qui s'impliquent, qui veulent faire des choses pour leur communauté?
Bien, on est au moins 200 bénévoles, j'imagine. Au-dessus de 200 bénévoles. Puis pour différents services, il y a le service des impôts, accompagnement de transport, popote, fraîche.
Nos services s'adressent surtout à des personnes aînées.
OK, j'étais pas sûr. Ce que cette femme-là disait me mêlait un peu. Le bénévolat, ça ressemblait encore beaucoup à la corderie.
Là, actuellement, il y a un projet là, qui est en train de se mettre en place. Ça va s'appeler le bon voisin. Ça serait pour faire des petites tâches, là, tu sais, genre aller désinstaller un air climatisé, genre monter d'un escabeau pour aller enlever une ampoule. Les personnes âgées ne sont pas nécessairement capables de faire ça, faute d'équilibre, faute de... Anyway, là, tu sais, différentes pertes d'autonomie.
C'était inévitable. Fallait que j'éclaircisse la différence entre le bénévolat et la corderie et disons qu'à ce sujet-là, le destin m'aidait pas mal. Parce que la présidente de la corderie de Shawinigan, avec qui j'avais une entrevue planifiée, avait été directrice du Centre d'action bénévole de la ville pendant de nombreuses années.
Qu'est-ce que ça a de plus puis de différent du bénévolat, la corderie? Qu'est-ce que...
Écoute, la ligne est fragile. Tu sais, la ligne est fragile. Mais je te dirais, quand tu fais de l'action bénévole, c'est un geste volontaire. Tu rends service, OK, à quelqu'un. Hein, c'est ça que tu fais. La corderie, la différence, c'est que quand tu rends service, OK, tu t'accumules des heures et toi, tu dois développer ton talent, tu sais. Alors, si, par exemple, tu es bon en cuisine ou... Bien, ton talent, c'est peut-être de développer avec quelqu'un ta sauce à spaghetti, par exemple, ou de montrer à quelqu'un à faire à manger. Ça fait que c'est le talent qui est la différence, c'est-à-dire que tu échanges ton talent, tu sais, en contrepartie avec du temps. Hey, c'est extraordinaire, ça. Mm-hmm.
France, qui est aussi une retraitée en passant, met le doigt sur un élément dont on n'a pas encore parlé. La corderie permet aux membres non seulement de recevoir des services, mais ça les aide également à voir qu'ils ont encore quelque chose à donner.
Les aînés, je te dirais qu'ils prennent toujours la porte de j'ai besoin d'un service. Hein? Tu sais, parce que je suis moins en forme, j'ai besoin de quelque chose pour mon jardinage, laver mes vitres, faire mes commissions, etc. Puis là, on leur dit, oui, mais c'est quoi votre talent? Puis là, ils font, mais non, pas de talent. Hein? Tu sais, je suis vieux.
Ah, OK. Ouais.
Tu sais, je suis vieux, moi, pas de talent. Tu sais, oui, quand je travaillais, là, non. Puis là, on fait, ben non, vous avez sûrement une passion, vous avez sûrement... Fait que chez les aînés, c'est de faire découvrir ça. Tu sais, c'est quoi mon talent, c'est quoi... tu sais, il y en a un accordeur, il fait des casse-têtes, mais en bois.
Ouais.
OK? Puis ça, il faisait ça comme ça, tu sais. Fait qu'on a découvert ce talent-là. Il nous a expliqué comment qu'il en faisait. Il en fait des petits, des grands, etc. C'est extraordinaire de le voir. T'sais. Il fait des paysages de la Mauricie, puis il fait ça en casse-tête. Wow. Fait que la corderie lui a permis de dire, OK, je le développe, ce talent-là.
Je suis pas encore un aîné, sauf que je sais que ça doit être difficile de voir son énergie et ses possibilités parfois décliner avec les années. Et ça, c'est sans compter tout ce qu'on entend de négatif sur la vieillesse. C'est clair qu'il y a un travail à faire pour montrer la valeur des aînés. Mais la corderie peut, je pense, en première étape, inciter ceux-ci à croire de nouveau en leur force et à se remettre en mouvement.
C'est comme si on avait décidé qu'une fois que les gens étaient à la retraite ou qu'ils sont aînés, là, tu sais, ils sont chez eux, c'est comme s'ils étaient plus importants. Tu sais. Dieu sait que les aînés, ils peuvent en apprendre des affaires. Tu sais. Ils peuvent t'aider même à avancer dans la vie, tu sais. Je regarde toujours les peuples où ils font attention à leurs aînés, tu sais. Donc, en Afrique, c'est un bel exemple, tu sais. Les aînés sont pas placés dans un CHSLD, là. Tu sais, ils sont dans la famille, ils s'occupent des petits-enfants. Tu sais, le rôle de grands-parents est très important. Puis c'est la sagesse aussi. Tu sais, les aînés, ils s'en servent. Ici, c'est comme si on avait décidé des parquets. On le sait. Quelqu'un qui donne quelque chose, qui partage quelque chose, c'est toute la richesse. Tu sais, il se sent utile, il se sent important, il sent qu'il y a encore quelque chose à donner, tu sais. Il n'est pas enfermé, il n'est pas...
C'est-tu l'enjeu du sens de la vie, tu sais? Tu sais, moi, par exemple, mon père, il a pris sa retraite. Puis il a vécu vraiment une passe difficile, tu sais. Il se demandait, il n'y avait plus de sens, parce que tu vas travailler, là, c'est quoi je fais? Puis est-ce que ça, de retrouver le sens à sa vie, c'est peut-être un remède?
Moi, j'en suis convaincue. T'sais, il faut retrouver une passion, il faut retrouver... Parce que quand tu as travaillé, là, tu as été super, là, tu sais. Ouais. Les gens, ils aimaient ça, travailler avec toi. Tu sais, comment ça se fait que du jour au lendemain, tu sais, ils reconnaissent plus ça, là. T'sais, tu te reconnais plus, toi, puis tu reconnais plus. Mais là, tu as un petit effort à faire quand même, tu sais.
Ouais, pas juste ça, des...
Tu sais, comme personne, il faut aussi que tu dises, je me mets en mouvement, là, tu sais. J'essaie de trouver ce qui est important, puis il y en a des réponses, là. Tu sais, avec la multitude de choses à faire, c'est impossible que tu ne trouves pas, là. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués aussi, tu sais, qui vont dire, hey, « Moi, j'ai donné toute ma vie. Je ne vais pas continuer à donner, tu sais.
Ouais, » ouais,
mais
ouais,
c'est
ouais.
Ça qui te rend riche, c'est ça qui te rend... que tu vieillis mieux, que tu te sens bien. C'est de la... Les gens, ils n'ont pas fait le lien.
Le
là.
Lien, OK, ouais,
Ben oui, si je donne, ça me rend service aussi à moi, là, tu sais.
France porte bien le message. Et je sais qu'elle s'implique comme présidente de la corderie, mais aussi dans plusieurs autres causes. Je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça.
Toi, qu'est-ce que ça t'apporte de t'impliquer? Parce que tu étais à la retraite tantôt. Qu'est-ce que ça t'apporte de continuer? Parce que toi, tu as sûrement donné beaucoup. Ton exemple, justement, tu sais, comment tu vis ça en ce moment, ton implication?
Ben, moi, je pense que ça fait partie de mon ADN que je dis, ouais, tu sais. Ouais. Une journée comme aujourd'hui, une conférence, l'entrevue que tu me fais, tu sais, demain, je vais être au kiosque, etc. Moi, je rentre chez nous, là.
Ouais.
Tu sais, tu comprends, je suis heureuse, ça va bien, ça m'a demandé peu d'efforts, tu sais. Puis je suis dans mon cœur, je suis heureuse parce que je fais partie, justement, d'une communauté qui est résiliente puis qui s'implique, tu sais. Moi, je me dis, collectivement, il faut s'aider, tu sais, sinon, on n'y arrivera jamais, là, tu sais.
Comme par hasard, les cloches de l'église s'étaient mises à sonner à la fin de mon entrevue avec France. Le bâtiment était à quelques pas de nous parce qu'on l'avait interviewé en face du centre d'action bénévole qui anciennement était le presbytère de la paroisse. En tant qu'ex-directrice de l'organisme, France avait passé une partie de sa vie à l'intérieur de ce bâtiment-là à mobiliser les membres de sa communauté pour rendre service. Et maintenant, quelques années plus tard, elle continuait son travail à travers la corderie en incitant les hommes et les femmes de cette même communauté-là à échanger entre eux et à croire en leurs talents. De nombreux aînés bénéficiaient positivement de ce mouvement-là. Et même si les accordeurs ne pouvaient pas les aider, chaque jour, ce coup de pouce-là était suffisant pour leur permettre de rester chez eux plus longtemps. Ma visite à Shawinigan m'avait également fait découvrir un autre aspect important. Ce qui facilitait le maintien à domicile, c'était pas uniquement d'offrir de l'aide, de la présence humaine ou des services. C'était aussi de donner des occasions aux aînés de rester actifs et connectés à la société. À ce sujet-là, d'ailleurs, France m'avait convaincu que les accorderies avaient une longueur d'avance. En incitant les aînés à échanger, elles étaient des acteurs de choix pour les aider à développer et à se rappeler de leurs talents, dans le but de les offrir.